Les chemins de traverse de la recherche. Radio du théâtre.
Bonjour et bienvenue dans Les chemins de traverse de la recherche, une émission proposée par l'UMR Littéar de l'Université Grenoble-Alpes et qui a pour vocation de donner la parole aux doctorants et doctorantes pour qu'ils et elles puissent témoigner de ces chemins qui bifurquent, des carrefours, des impasses ou des rencontres qui façonnent leur parcours de recherche doctorale. Nous allons arpenter ce matin un territoire singulier avec Cécile Julion. Bonjour.
Bonjour Viviane.
Tu es doctorante et aujourd'hui tu nous proposes un chemin avec un titre Antiquité gréco-romaine et recherche doctorale à l'Université Grenoble-Alpes, jouer avec les temporalités pour rendre compte du présent à la lumière du passé. Alors, avec cette musique qui nous met déjà dans l'ambiance de cette antiquité gréco-romaine, Cécile, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et surtout le sujet de tes recherches et tes encadrants?
Oui, tout à fait. Alors, moi, je mène une thèse qui s'intitule « Les séquences grecques dans la correspondance de Cicéron ». Et donc, c'est une thèse en lettres classiques dans le domaine des sciences de l'Antiquité et plus particulièrement, je m'intéresse à l'Antiquité gréco-romaine au 1er siècle avant notre ère. Il y a un auteur qui s'appelle Cicéron, Marcus Tullius Cicero, qui est avocat, homme politique et orateur romain. Et il a aussi bien composé des œuvres, des réquisitoires et des plaidoiries que des traités de rhétorique, de philosophie. Et aussi mener une activité, en fait on le sait moins, intense d'échanges épistolaires, à la fois en grec et en latin. Et donc moi j'étudie une œuvre qui s'appelle la correspondance, c'est l'ensemble de ces échanges épistolaires, et en particulier j'étudie les mots grecs qui se trouvent dans la correspondance, puisqu'en fait Cicéron est un romain, mais il faut savoir qu'à cette époque, pratiquement tous les romains, parler à la fois le latin et le grec. Et donc dans la correspondance, il emploie plusieurs mots grecs et moi mon objectif, c'est d'étudier ces différents emplois et d'essayer de les comprendre. Voilà, donc cette thèse est menée sous la direction d'Isabelle Cogitor, qui est professeure de langue et littérature latine au laboratoire Littéar, et de Julie Sorba, qui est maîtresse de conférence HDR en sciences du langage, au laboratoire Lidilem. Isabelle Cogitor a pris sa retraite au 1er septembre, donc Florian Barrière va reprendre sa suite, qui est professeur de langue et littérature latine également au laboratoire Littéar. Et donc Madame Cogitor a bien voulu continuer à me suivre et à m'encadrer.
Et ce programme qui est très ambitieux, puisque moi, de ma spécialité, ça me semble quelque chose de absolument fascinant. C'est un travail qui s'est déclenché à un moment. Mais qu'est-ce qui t'a conduit à commencer une thèse? Parce que c'est un travail bien particulier. Et pourquoi ce choix de l'Antiquité gréco-romaine comme période d'étude?
Alors, j'étais à la fin de ma troisième année de licence en lettres classiques à l'UGA et j'avais le choix entre deux orientations pour mon master, soit le master MEF, donc m'orienter vers le professorat, soit m'orienter vers la recherche. Et j'ai toujours été passionnée par l'Antiquité et je voulais en apprendre davantage sur le monde gréco-romain en particulier, donc je me suis dirigée plutôt vers la recherche. Ensuite, je devais trouver un sujet de mémoire et pour cela, j'ai demandé conseil à mes professeurs. Donc, c'était à cette époque Sophie Aubert-Bayot, qui était ma professeure de langue et de littérature latine, qui travaillait à ce moment sur le grec de la philosophie dans la correspondance de Cicéron, dans le cadre de la rédaction de son HDR. Et donc, en échangeant avec elle, elle m'a proposé d'approfondir davantage le sujet en étudiant la totalité des emplois du grec dans la correspondance et donc pas seulement le lexique de la philosophie. Aussi, donc, j'avais comme professeur de linguistique latine et grecque Julie Sorba. Et c'était, je découvrais alors la linguistique à cette époque et c'est une discipline qui m'a tout de suite beaucoup plu. Et après aussi divers échanges avec elle, on a décidé toutes les deux d'étudier les divers emplois du grec sous le point de vue syntaxique et morphologique et en particulier en m'intéressant au bilinguisme gréco-latin. Et donc c'est parti pour l'aventure qui dure maintenant depuis 3 ans, bientôt 4. Country roads, take me home to the place.
Alors, je précise quand même que ces choix musicaux ont tous été opérés par toi, Cécile, et j'avoue que c'est particulièrement bien choisi parce que là commence aussi effectivement l'aventure. Alors, cette thèse, qui se situe donc au carrefour de plusieurs disciplines, telles que la langue et la littérature latine et la linguistique, mais aussi, de façon plus générale, l'histoire littéraire et philosophique de la Rome antique, comment t'a-t-elle nourri sur le plan à la fois professionnel et humain ? Par exemple, as-tu le sentiment que l'expérience de l'écriture scientifique, très particulière parce qu'elle nécessite parfois de s'isoler pour se recentrer sur soi, t'a incité à envisager la vie doctorale sous un autre angle ?
Alors, je dois dire que si l'écriture d'une thèse est une expérience unique à vivre et de laquelle on ne ressort pas tout à fait indemne,
c'est vrai.
Mais plutôt, je dirais, comme transformée, parce que je peux vous dire que la personne que j'étais il y a 3 ans, alors que je débutais à peine mes recherches, est totalement différente de celle qui vous parle aujourd'hui. C'est parce que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle permet de tisser des liens et de créer des réseaux de partage et d'échange d'informations plus ou moins formelles, un peu comme la lettre, dans l'Antiquité gréco-romaine, contribue à développer et à renforcer les liens d'amicitia, d'amitié, entre épistoliers et correspondants, ainsi de Cicéron et d'Atticus, Atticus qui est son principal correspondant de Cicéron et son meilleur ami. En effet, et contrairement à ce que l'on pourrait croire là encore, une thèse ne s'écrit pas au singulier, parce qu'au départ, en fait, on ne sait vraiment rien, ou presque rien de son sujet. On ne sait pas du tout sous quel angle l'aborder, on ne sait pas comment commencer, et c'est vraiment un sentiment très désagréable que l'on peut comparer pour un écrivain au syndrome de la page blanche. Et pour guérir, donc c'est vrai que je file un peu la métaphore, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti et c'est ce que j'ai vécu durant mes premières années de thèse, surtout lorsque j'en ai véritablement commencé l'écriture. On cherche donc des palliatifs et l'un d'entre eux est la rencontre, qui peut être soit fortuite, soit provoquée. Pour ma part, je pense que j'ai fait 2 rencontres qui ont été toutes les 2 préparées. Ce sont 2 grandes rencontres qui sont composées de plusieurs événements ponctuels qui ont fait progresser mes recherches, mais qui m'ont également beaucoup enrichi sur le plan humain. Donc, tout d'abord, je pense déjà au séjour de recherche que j'ai passé à l'École française de Rome. J'étais en 2e année de thèse. Et j'ai pu visiter des lieux marquants. Donc tout d'abord, la Bibliothèque apostolique vaticane, où je me rendais quotidiennement pour collationner les manuscrits renfermant des lettres de Cicéron, et la Bibliothèque du Palais Farnèse, où se trouve également le siège de l'ambassade de France en Italie. C'était vraiment une expérience unique à vivre, et que je souhaite à tout doctorant, vraiment, d'expérimenter au moins une fois durant son parcours doctoral. Parce qu'on se sent vraiment privilégié, comme revigoré lorsqu'on se trouve dans l'enceinte de la Bibliothèque apostolique vaticane, et encore plus lorsque l'on s'assied, donc quand même après avoir passé non sans quelques encombres les nombreux portiques de sécurité, à l'une des tables en bois de la salle de consultation des manuscrits, on devine la présence du pape, l'air ambiant semble différent, comme chargé d'énergie, et c'est vraiment une belle expérience, un peu déstabilisante quand même au début, mais on s'y habitue quand même assez rapidement.
Alors ces rencontres, d'abord liées à ces bibliothèques que tu colores de tant d'aventures, quelles ont été les rencontres marquantes qui sont liées à ces lieux marquants ?
Alors j'ai fait plusieurs rencontres marquantes durant ce séjour. Tout d'abord avec les autres boursiers qui étaient en résidence à l'EFR en même temps que moi. Donc il y avait une très bonne ambiance entre nous, on a beaucoup échangé sur nos recherches, mais aussi sur le mode de vie à la romaine. On a organisé des sessions de travail communes à la bibliothèque du Palais Farnèse, mais aussi on a partagé plusieurs repas dans les meilleurs restaurants de la ville et au cours desquels on a plus ou moins appris à se connaître, à tisser des nouveaux liens. Et je pense que j'ai fait une rencontre vraiment marquante avec Paola Carmela La Barbera, qui est une toute jeune docteure de l'Université de Venise et qui est en co-tutelle avec la Sorbonne Université, que je salue d'ailleurs si elle nous écoute en ce moment, qui a donc elle a récemment soutenu sa thèse de doctorat. Et ce fut pour moi une rencontre très enrichissante, autant sur le plan professionnel, parce que Paola travaille sur la même période de l'histoire que moi, donc l'Antiquité, et partage avec moi le même attrait pour les langues latines et grecques, mais aussi sur le plan personnel, parce qu'on est resté en contact depuis, on s'aide mutuellement, surtout elle envers moi, je dois dire, puisqu'elle a soutenu sa thèse et peut me partager son expérience, me prodiguer des conseils.
Alors, tu viens de nous parler de ce séjour de recherche à l'École française de Rome, mais il me semble que tu as récemment obtenu aussi une bourse pour un séjour de recherche d'une durée d'un mois à Oxford, prévu pour le mois prochain, octobre. Comment envisages-tu ce nouveau voyage ? Tu disais que tu n'étais plus la même personne aujourd'hui, comme nourrie, façonnée par ces 3 années de recherche. Et comment conçois-tu alors donc cette nouvelle opportunité ou quel type de rencontre t'attends-tu à faire ?
Alors oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de bénéficier de cette bourse de recherche. Donc je suis maintenant en 4e année de thèse, donc mon travail a bien avancé. Et j'ai de nouveaux enjeux. Donc tout d'abord, la rencontre et l'échange avec des spécialistes ou non de l'Antiquité gréco-romaine, de Cicéron, d'épistolaire, qu'il s'agisse aussi bien de professeurs, de maîtres de conférences, de post-doctorants ou de doctorants. Et il y a aussi le lien avec les humanités, le domaine des humanités numériques que j'aimerais approfondir, puisque j'ai pour projet d'éditer de façon numérique la correspondance, projet que je réserve pour mon post-doctorat. Et j'aimerais bien un peu chercher à savoir, à comprendre où en est la recherche dans ce domaine en Angleterre, quelles sont les méthodes de travail des chercheurs de l'Antiquité, qui est un domaine, je pense, quand même de la recherche universitaire, qui est nettement plus développé en Grande-Bretagne qu'en France, et tout cela afin de l'appliquer à mon travail. Là encore, j'espère visiter des lieux marquants. Tout d'abord, la bibliothèque de la MFO, qui est riche d'une collection de plus de 30 000 livres, et j'ai préparé cet effet une liste d'ouvrages à consulter, des ouvrages qui ne sont pas disponibles dans les bibliothèques en France ou difficilement accessibles. Et puis surtout visiter et puis travailler à la bibliothèque bodléienne, qui est considérée comme la plus prestigieuse des bibliothèques de l'Université d'Oxford, qui est dispersée sur différents sites, qui regroupe plus de 12 millions de livres imprimés. Et surtout, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'elle renferme des documents anciens, tels que des manuscrits, des papyrus, des cartes ou des dessins, qui constituent donc des sources vraiment fondamentales pour moi qui travaille sur la période antique. Et puis là encore, j'aimerais aussi organiser des rencontres que j'espère tout aussi marquantes et enrichissantes, autant sur le plan professionnel que personnel encore, que celle de mon séjour de recherche à l'EFR, en particulier avec des personnalités qui ont mené ou qui mènent actuellement des recherches en lien avec ma thèse. Mais contrairement à mon séjour de recherche à Rome, ce seront plutôt des rencontres particulières, je dirais, parce qu'hybrides, donc certaines en présentiel, d'autres en distanciel. En présentiel à la MFO, je vais sans doute rencontrer le docteur Olivia Elder et le professeur Alex Mullen concernant tout ce qui est traitement des données de mon corpus. Je vais aussi rencontrer le professeur Tobias Reinhardt sur la dimension philosophique des lettres de Cicéron, plus particulièrement l'axe rhétorique. Et en distanciel, j'aimerais rencontrer Nathan Gilbert, également sur la dimension philosophique des lettres de Cicéron, mais plutôt centré sur le personnage d'Atticus, donc qui est le meilleur ami de Cicéron et son principal correspondant, et en particulier sur le domaine de l'épistolographie antique et la notion de genre littéraire, puisque j'étudie la correspondance de Cicéron, donc, qui fait partie du genre épistolaire. J'aimerais rencontrer le professeur Andrew Morrison, le docteur Maria Ruth Morello, le professeur Simon Swain. Et surtout, ce que j'aimerais faire, c'est enregistrer ces entretiens et en faire des capsules audio ou capsules vidéo que je mettrai à la disposition à la fois de la MFO et de l'UGA. Tout cela dans un but de valorisation de mes recherches. Donc, ce sont là diverses possibilités d'utilisation de ce matériau oral et donc que j'envisage, comme la retranscription et l'intégration à l'écrit dans ma thèse, dans un article scientifique, ou la diffusion de ces extraits, audio-vidéo, dans le cadre d'une communication présentée lors d'une séance de mon séminaire de recherche translatio, qui engageant sûrement des débats. Dans tous les cas, en fait, moi, mon but, c'est vraiment de valoriser mon travail en utilisant les différents médias qui existent aujourd'hui, et si possible, qui privilégient l'oralité, laquelle me semble quand même être un bon moyen de se faire connaître, notamment pour des raisons pratiques et de facilité d'accès.
Mais oui, vous êtes bien sur 514 mètres onde moyenne. Ne vous étonnez pas si vous ne recevez pas votre programme habituel. C'est aujourd'hui la générale de France Inter Paris 514 mètres. Ce que sera France Inter Paris 514 mètres ? Eh bien, découvrez-le en nous écoutant.
Alors, nous venons d'entendre une archive de l'UNA qui sont les débuts de la radio FIP, une archive de 1971 et qui nous semblait tout à fait appropriée pour faire le lien entre la recherche et sa valorisation et cette envie que tu as de valoriser la recherche par ces capsules audio et vidéo. Alors évidemment, ce rapport à l'audio nous amène aussi à l'oralité, ce que tu viens de présenter, et à cet univers de la radio qui est particulier et qui nous rassemble ce matin, mais que tu as déjà un petit peu essayé aussi.
Oui, alors le souhait de faire connaître en même temps que de valoriser mon travail m'a incité à effectuer des recherches sur les différents moyens de communication qui existent aujourd'hui et si possible, comme je le disais, qu'ils soient à la fois gratuits et facilement accessibles au grand public. Et la radio, justement, me paraît être le médium tout à fait adéquat à cela.
Quels ont été tes premiers contacts avec l'univers de la radio ? Comment et pourquoi la radio d'ailleurs ? Et comment tu as eu l'idée d'utiliser ce support radiophonique pour faire connaître ton travail ?
Alors, j'étais à la fin de ma deuxième année de thèse et je commençais vraiment à avoir de sérieux doutes sur la pertinence de mon travail, sur le bien fondé de mes recherches. Je me demandais surtout ce que mes recherches apporteraient de nouveau à la communauté scientifique, comment, à mon modeste niveau, je pourrais faire progresser la recherche sur le grec dans la correspondance de Cicéron, alors que d'éminents chercheurs avant moi n'y étaient pas parvenus, ou que partiellement. Par ailleurs, j'entamais en même temps à ce moment-là le début de la rédaction de ma thèse, et je me trouvais confrontée à un nouveau problème. Impossible pour moi d'écrire la moindre ligne, je ne savais plus faire une phrase. Moi qui avais toujours éprouvé beaucoup de plaisir à écrire durant toute ma scolarité, j'étais comme paralysée et je devais faire face, jour après jour, à la page de mon ordinateur qui restait cruellement blanche. C'était vraiment une période très douloureuse pour moi et de laquelle je ne suis toujours pas sortie, puisque je me consacre actuellement tout mon temps à l'écriture de l'état de l'art de ma thèse. Mais comme l'a dit l'une de mes encadrantes, Isabelle Cogitor, il faut, quand on fait de la recherche, accepter que le monde de la recherche possède sa propre temporalité. Donc en fait, un jour, je discutais avec une amie, j'échangeais en particulier sur l'univers médiéval, qui est une autre période de l'histoire qui me fascine, et cette amie m'a informée d'un podcast qu'elle venait d'enregistrer, qui traitait d'une partie de sa thèse. Elle me confiait avoir pris beaucoup de plaisir à effectuer l'enregistrement. Elle m'a transmis son contact, Fanny Cohen-Moreau, que je salue au passage également si elle nous écoute aujourd'hui, qui a fondé le podcast Passion médiéviste en 2017 et qui regroupe aujourd'hui deux autres podcasts, Passion antiquité et Passion moderniste. Et d'ailleurs, j'invite à ce titre tous les auditeurs à se rendre sur son très beau site et à écouter et réécouter les émissions enregistrées. Donc j'ai tout de suite été séduite par ce projet, curieuse d'expérimenter ce nouvel univers. J'étais aussi un peu angoissée parce que je devais a posteriori me réécouter. Mais je décidais quand même de contacter Fanny par mail. Et quelques mois plus tard, je reçus une réponse positive de sa part. Elle m'invitait à la rejoindre chez elle sur Paris pour effectuer l'enregistrement qui se déroula au mois de mai 2023. J'en garde vraiment un très bon souvenir d'ailleurs. Et il est possible, donc comme c'est un podcast, de l'écouter en se rendant sur le site de Fanny, donc rubrique pour ma part Passion Antiquité.
Alors, la radio est un univers très très large et il y a beaucoup de choses quand on a préparé cette émission ensemble. Il y a aussi une dimension sonore dans la radio qui est la tienne aussi. Je fais une petite digression. Parce que tu es musicienne aussi, et je pense que cet ancrage dans l'écoute est aussi une des dynamiques qui nous rapproche de la radio. Alors, la tienne, tu nous l'expliques parce que c'est une manière d'arriver à la recherche, presque de prendre une bifurcation pour continuer de faire de la recherche tout en échappant à cette angoisse de l'écriture quand elle n'arrive pas et de pouvoir se remettre dans des réseaux très, très dynamiques. Et je pense que il faut pas négliger dans ce travail de recherche doctorale tous ces petits rouages qui peuvent nous restimuler et nous faire toujours garder nos objectifs, nos idées fixes, nos horizons, sans qu'on s'épuise sur parfois un blocage, parce que les blocages sont très très épuisants. Donc pour revenir à ces podcasts, donc tu as parlé de ce podcast Passion Antiquité. Il y a eu aussi cet enregistrement à Paris, donc j'imagine dans son studio personnel.
Oui, tout à fait, chez elle, oui.
Il y a eu aussi l'émission de Joseph Boreider, Libido Sciandi.
Oui, tout à fait. Donc en fait, cette première expérience du monde de la radio m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est donc avec grand plaisir que j'ai accepté le mois suivant la proposition de Joseph Boreider, que je salue également, d'enregistrer le premier épisode de son émission Libido Sciandi, diffusée sur Radio Campus Grenoble. Même si les raisons pour lesquelles il m'a contactée restent encore obscures pour moi aujourd'hui, je dois dire, puisque je ne sais toujours pas comment il a été informé de mes recherches en cours, j'ai là encore passé un très bon moment dans les studios de Radio Campus à échanger avec Joseph, qui est très curieux, autour de ma thèse. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que ces deux expériences m'ont considérablement enrichie, autant sur le plan professionnel en faisant connaître mes recherches au grand public que sur le plan personnel en me permettant d'envisager mon travail sous un angle novateur, donc celui de la vulgarisation scientifique, qui n'a rien de vulgaire d'ailleurs dans le sens où on l'entend aujourd'hui, puisque le mot vulgarisation vient du latin vulgaris, qui signifie qui concerne la foule, générale, ordinaire, commun, banal. Et il y a aussi les bons retours de la part des auditeurs et surtout de mes proches, qui m'ont donné l'envie de poursuivre dans cette voie, toujours dans le but de donner davantage de visibilité à mes recherches, mais également de développer mes compétences en matière d'ondes et de radio. Puisque, en effet, en juillet 2024, j'ai pour projet de créer ma propre émission de radio, que j'ai intitulée « Tu devrais le savoir, 10 minutes pour briller en société », qui sera consacrée à l'étymologie des mots et dont le lancement officiel se fera bientôt. Les dernières informations à ce sujet seront d'ailleurs publiées sur la page dédiée à l'émission sur le site de Radio Campus Grenoble, ainsi que sur le carnet hypothèse que j'ai récemment ouvert, à la fois pour partager mes recherches de thèse et expliquer le principe de l'émission. Bon, le carnet n'est pas encore très bien fourni, mais il est tout de même déjà accessible dans un moteur de recherche.
Je tiens juste à préciser que toutes ces émissions, évidemment, nous mettrons les liens sur le site de Radio Campus et qui sera aussi sur le site de l'ITR, de notre IUMR, pour que nous puissions te réécouter dans tous ces podcasts et continuer à dresser toute cette toile qui seront des rencontres peut-être juste auditives ou peut-être des rencontres plus tard avec toi. Donc, là, aujourd'hui, tu es plongée dans l'écriture de ta thèse. Cette émission sur Radio Campus, tu devrais le savoir, 10 minutes pour briller en société, a déjà un petit peu commencé, puisque moi j'ai déjà entendu le pilote, et je crois que ça va être vraiment super. Mais tu es quand même beaucoup plus concentrée pour l'instant sur l'écriture de ta thèse. Là, aujourd'hui, tu as beaucoup d'énergie.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que je suis actuellement vraiment plongée dans l'écriture de ma thèse. Ça me demande vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de stress. Et l'univers de la radio, ainsi que le carnet hypothèse que j'ai ouvert, constitue vraiment pour moi un refuge où je me retrouve avec moi-même et où je peux partager librement ma passion pour l'antiquité gréco-romaine.
Sous un angle d'ailleurs assez malicieux. Je crois que tu devrais le savoir, les choix de mots et des étymologies, c'est quand même une approche tout à fait singulière que tu nous proposes. Et donc, du coup, tu as d'autres projets qui vont être dans la continuité de cette page du carnet hypothèse ?
Oui, tout à fait. Alors, ce sont deux autres projets qui se situent dans la continuité de ce que je viens d'entreprendre. Donc, créer une page Instagram, donc toujours pour valoriser mon travail et assurer la diffusion de l'information, de la communication. Et pourquoi pas même envisager des lives sur TikTok. Donc, je sais que ces deux médias sont fortement contestés, à la fois par la communauté intellectuelle et scientifique et par les autres médias eux-mêmes. Mais il me semble quand même toutefois qu'il s'agit là de deux moyens de communication qui sont redoutablement efficaces pour se faire connaître aujourd'hui. Par ailleurs, considérer ces deux projets rejoint toujours mon but principal, hein, qui est jouer avec les temporalités, mêler le passé au présent et un petit peu en fait parler de Cicéron en utilisant les nouvelles technologies et à terme se servir de ces dernières pour faire progresser la recherche dans le domaine des sciences de l'Antiquité.
Thank you. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8 dans les chemins de traverse de la recherche. Alors Cécile, nous avons jusqu'à présent parlé de ton parcours doctoral, des lieux et des rencontres marquants que tu as fait et qui t'ont tout à la fois fait progresser dans ton travail et enrichi sur le plan humain, en particulier ton contact avec le monde de la radio. Et d'ailleurs, ta présence aujourd'hui dans ces studios, l'enregistrement de cette émission d'ailleurs, l'illustre parfaitement bien cette manière que tu as de parler de ta recherche avec aisance et cette oralité. Donc il me semble que tu mènes toutefois aussi d'autres activités pour promouvoir la recherche à l'UGA et en particulier la recherche doctorale avec les jeunes chercheurs. Alors comment ça se passe ?
Oui, tout à fait. Donc je pense que tu veux sans doute faire allusion à l'association des doctorants du laboratoire LITESAR qui s'appelle LITESAR, qui a rapidement été présentée par Mélie lors de la dernière émission d'ailleurs, et dont je suis la présidente depuis 2 ans, bientôt 3.
Effectivement, c'est à cela que je faisais allusion, mais quand je parlais de la recherche à l'UGA, faite par les jeunes chercheurs. Et est-ce que tu pourrais nous en dire davantage, non seulement sur ton rôle au sein de l'association, mais également sur l'association en elle-même, ses fonctions, ses rôles, ses missions ?
Oui, tout à fait. Donc je peux peut-être commencer en nommant les membres de l'association, ainsi qu'en précisant leur rôle respectif. Donc nous avons une vice-présidente, Jeanne Montavert, qui est doctorante en littérature française et francophone à l'UGA. Notre secrétaire, c'est Jeanne Mounier-Lompré, qui est doctorante en littérature et en langue médiévale à l'UGA et qui effectue une thèse en co-tutelle. Notre vice-secrétaire, c'est Madeleine Martineux, qui est doctorante en littérature française et francophone à l'UGA. Notre trésorière, c'est Solène Lépiné, doctorante en littérature française et francophone à l'UGA également. Et je précise que Solène a tout récemment été élue à ce poste en remplacement d'Amandine Schlad, qui est, comme moi, doctorante en sciences de l'Antiquité à l'UGA et qui a voulu donc quitter l'association pour se consacrer pleinement à l'achèvement de sa thèse et à la préparation de sa soutenance. On a un poste donc aussi de vice-trésorier-trésorière à pourvoir, ça ne vous aura pas échappé, j'en reparlerai tout à l'heure. Et donc moi-même, Cécile, qui occupe la fonction de présidente de l'association. Concernant les fonctions, les rôles, les missions de l'association en particulier, l'association LITESAR, c'est une association qui représente l'ensemble des jeunes chercheurs du laboratoire LITESAR. Elle a été créée en 2016 par donc les doctorants de l'UMR LITESAR. Son rôle principal, c'est de coordonner l'ensemble des événements qui rythment la vie de tout doctorant, qui jalonnent son parcours doctoral, tel que le séminaire doctoral, qui, en l'absence de proposition de la part des doctorants, n'a malheureusement pas eu lieu cette année. Donc je lance un appel et j'insiste fortement la communauté doctorante à ne pas hésiter à proposer des thèmes, des sujets, pour que le séminaire puisse se tenir cette année. Parce que je trouve que c'est un bon moyen d'échanger autour de ces recherches, mais pas seulement, puisque le séminaire peut prendre diverses formes, et là encore j'en reparlerai. Ou également, donc, on soutient les journées doctorales que Mélie vous a présentées lors de la dernière émission. Et à plus petite échelle, LITESAR accompagne également tout doctorant qui souhaiterait organiser un événement scientifique ponctuel, comme une journée d'études, une rencontre avec un chercheur, en prenant notamment en charge, tout ou en partie, les frais de déplacement et ou d'hébergement du ou des intervenants. Et c'est une aide financière qui est particulièrement utile et qui vient compléter celle proposée par le laboratoire LITESAR et par l'école doctorale. Donc, à titre d'exemple, cette année, on a soutenu le projet de Lucie Bonnet, qui est doctorante en art du spectacle à l'UGA. Ce projet s'appelle Faire corps, rencontre nomade de la recherche en cirque. Et c'est un séminaire doctoral qui avait pour but de valoriser les avancées des personnes nouvellement engagées dans la recherche en cirque. Ce séminaire se tenait du 15 au 17 mai dernier. Et on a aussi soutenu le projet de Jeanne, qui donc finançait le défraiement de Fanny Cohen-Moreau, qui venait dans le cadre du séminaire des médiévistes de l'UGA, qui est intitulé « Maigre », enregistrer 2 podcasts, et c'était également au mois de mai dernier. Enfin, et donc c'est peut-être le plus important, l'ITESAR participe également à l'organisation de rassemblements conviviaux, puisque l'une de ses missions, et je précise qu'il s'agit là d'une mission très importante pour nous, et que nous avons vraiment à cœur de remplir, est de permettre l'échange et l'entraide entre doctorants, afin d'éviter l'isolement de chacun et de chacune. De fait, comme je le précisais en parlant de ma propre expérience, chaque parcours doctoral, s'il est unique, spécifique à chaque doctorant, est en fait fait de doutes et d'incertitudes, d'hésitations aussi, qui peuvent prendre de l'ampleur à mesure que le temps passe, mais que la recherche, elle, n'avance pas forcément. Et donc l'ITESAR offre ainsi une voix collective à l'ensemble de la communauté doctorante, du laboratoire, en incluant bien sûr les post-doctorants. Cette année, à titre d'exemple, on a organisé une soirée-jeu au café-jeu Les Sept Royaumes, dans le centre-ville de Grenoble. L'association a pris en charge l'entrée de chaque participant, et on a tous plus ou moins passé un bon moment. On a échangé bien malgré nous parfois sur nos recherches, et également sur les vacations que certains d'entre nous effectuons, mais on a quand même tâché de nous détendre, de prendre du bon temps, en laissant de côté de façon temporaire notre thèse.
C'est pas évident de laisser de côté une thèse, même lorsqu'on va jouer. Et comment peut-on vous suivre ou en connaître davantage sur cette association ?
Alors, concernant le volet communication, diffusion de l'information, je précise que l'association dispose d'un espace dédié sur le carnet hypothèse. Donc c'est le carnet de tous les doctorants du laboratoire, mais on y occupe quand même une place prépondérante. Et on a aussi donc le compte Twitter pour diffuser les informations. C'est le compte Twitter de l'ensemble des doctorants du laboratoire, là encore.
Juste, tu peux nous dire comment s'intitule ce carnet hypothèse ?
Oui, tout à fait. Donc le carnet hypothèse des doctorants du laboratoire s'intitule « Art, savoir et indiscipline ».
Là aussi, on remettra les liens avec le podcast de cette émission. Et comment fait-on ses débuts dans le monde de la recherche au laboratoire LITESAR ?
Alors, un temps fort pour l'association est l'organisation de la réunion de rentrée des doctorants du laboratoire qui a lieu à chaque début d'année universitaire, généralement à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre, donc j'y reviendrai, et qui a pour vocation non seulement de faire connaître l'association, donc les rôles, les missions, les fonctions, mais aussi et surtout d'accompagner les nouveaux arrivants dans leur intégration, à la fois au sein du laboratoire et de l'école doctorale LLSH. Et à ce titre, nous diffusons un diaporama que nous actualisons chaque année, que je suis en train d'actualiser d'ailleurs, et dans lequel nous compilons toutes les informations que nous estimons utiles pour que le doctorant débute son parcours doctoral avec sérénité et fasse surtout désormais partie intégrante de la communauté.
Alors, tu viens de parler de cet accueil tout en sérénité et de venir dans une communauté. Et c'est ce que vous faites vraiment très bien, malgré le fait que nous fassions une petite illustration musicale par Psychose de Fred Hitchcock. Mais parce que aussi, eh bien, cette communauté est là pour répondre à ces moments un peu angoissants. Il y a deux moments très angoissants quand même.
Oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, je voudrais parler de la commission d'écoute qui a l'intention des doctorants et aussi faire un rappel sur le fonctionnement du CSI, le comité de suivi individuel. Donc, tout d'abord, nous rappelons à l'occasion de cette réunion qu'il existe une commission d'écoute composée d'enseignants-chercheurs et de doctorants ou de post-doctorants. Cette commission d'écoute a été créée en 2020 par un collectif formé de doctorants et d'enseignants-chercheurs qui sont directement en lien avec la direction du laboratoire. Cette commission peut être sollicitée à tout moment en cas de difficulté au sujet de son doctorat ou de l'encadrement de ses recherches. Et son but principal, c'est vraiment de parer à l'isolement du doctorant durant tout son parcours doctoral et de prévenir par là même les éventuelles situations de précarité. L'enjeu, il est vraiment fondamental et c'est d'apporter une remédiation à une situation lorsque le dialogue avec la direction de thèse ou le CSI ou la direction du laboratoire ne suffit plus ou devient impossible pour diverses raisons. Et donc, les informations communiquées, bien sûr, par les différents acteurs au cours des échanges restent strictement confidentielles. Et un autre sujet donc, que nous abordons également, c'est le CSI, le comité de suivi individuel, qui se réunit une fois par an jusqu'à la soutenance de la thèse. Donc, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails qui sont vraiment complexes, d'autant plus que son fonctionnement a été modifié par arrêté en août 2022 et que moi, mon cas personnel dépend de l'ancienne version où il n'était pas nécessaire pour le doctorant d'associer sa direction à l'entretien du CSI notamment. Je rappellerai donc seulement que le CSI est défini dans les textes qui expliquent son rôle comme une instance qui veille au bon fonctionnement du cursus en s'appuyant sur la charte du doctorat et la convention de formation. Et pour tout complément d'information concernant le CSI, donc je renvoie les auditeurs à la page dédiée sur le site de l'ED. Ensuite, donc, toujours en parlant de cette réunion de rentrée que nous organisons, avant de passer à un temps d'échange sous forme de questions et de réponses, on fait un rappel sur les quelques outils numériques indispensables à tout doctorant en début de thèse, en expliquant brièvement le fonctionnement de chacun. Donc, par exemple, la messagerie professionnelle, un outil qui permet le partage de fichiers volumineux qui s'appelle FileSounder, ou un outil qui sert à planifier des réunions qui s'appelle Evento. On rappelle également, et ça c'est très important, que tout doctorant de l'UJA dispose d'un compte Zoom de visioconférence sous licence, ce qui implique une durée de visioconférence illimitée. Et on présente aussi un autre outil qui s'appelle qui est le site EasyRepro et qui permet de faire des impressions et des photocopies, ce qui est très utile quand on dispense des cours à titre de vacataire ou dataire. Cela me permet donc de faire la transition vers le sujet des vacations que je ne développerai pas ici, mais qui fera l'objet d'une discussion approfondie lors de notre prochaine réunion de rentrée. Donc venez.
Tu peux nous rappeler la date ? Est-ce que tu
l'as fait ? Oui, donc la réunion de rentrée, ce sera le 9 octobre de 16h à 18h en salle 209 de la Massie. Et elle sera largement aussi accessible sur Zoom par visioconférence. En effet, en fait, plusieurs d'entre nous, ces dernières années, ont déploré le manque d'informations au sujet des vacations et éprouvent le besoin d'en parler. Il s'agit aussi bien de questions d'ordre administratif, comme la signature du contrat en lui-même ou la gestion des bulletins de paie, que d'ordre plus personnel, comme la façon d'engager un premier contact avec ses étudiants, souvent en n'ayant aucune expérience du milieu de l'enseignement à l'université.
Qu'est-ce qui vous arrive en ce moment ? Vous avez des soucis ?
C'est la terreur des écoles.
Il arrive un jour sans prévenir dans votre classe et petit à petit, sans que vous vous en rendiez compte,
il panique tous les profs.
Il s'insinue dans votre cerveau et détruit tout, tel un rongeur.
Son imagination n'a pas de limite.
Alors j'espère que vous n'envisagez pas vos vacations avec autant de stress et que nous ne rencontrons pas des étudiants et des étudiantes aussi effrayants. C'était un petit clin d'œil sur les stress des premières vacations. Alors, de cette présentation générale de l'association, on pourrait peut-être venir à des projets plus précis pour ces prochaines années. Est-ce qu'il y a d'autres projets, des postes à pourvoir ? Tu en parlais tout à l'heure.
Oui, donc restons fidèles à nos principes. On tient à développer chaque année de nouveaux projets en essayant d'être toujours plus créatifs et plus inventifs. Donc cette année, on va continuer à organiser des événements festifs à des dates clés du calendrier, comme le mois de décembre, qui sent le sapin et les décorations de Noël, ou le mois de février, qui est propice à une petite pause sucrée avec la fête de la Chandeleur. Et ces moments partagés, souvent en petit comité, sont l'occasion de se détendre, encore une fois, et de sortir du domaine de la recherche universitaire. Nous allons aussi continuer à accompagner avec grand plaisir l'ensemble de la communauté doctorante de l'ITR dans leurs divers projets en leur proposant une aide financière qui viendra encore une fois compléter celle du laboratoire et celle de l'école doctorale. On a aussi un nouvel objectif à remplir cette année, Ce sera de développer encore plus de liens avec tous les doctorants de l'UGA, donc c'est-à-dire en envisageant des collaborations et des échanges inter-associations. Par exemple, je pense à l'association des doctorants du laboratoire ILCA4, le groupe TESAR, à qui donc je lance un appel aujourd'hui, un appel à collaboration si l'un ou l'autre de ses membres nous écoute actuellement.
Est-ce que vous avez déjà un petit peu imaginé quelle serait la forme de ces échanges inter-associations ?
On pense à des rencontres, plus ou moins formelles, informelles, si possible en présentiel, dans nos locaux ou dans les locaux du laboratoire ILCA4 ou bien à la bibliothèque. Vraiment des rencontres d'échanges, de partage sans vraiment, tout d'abord pour engager un premier contact et ensuite se revoir, prévoir peut-être des rendez-vous hebdomadaires ou mensuels pour mettre en place des projets en commun.
Oui, des collaborations, c'est peut-être pour aussi trouver des perspectives un peu nouvelles sur des sujets, alors pas spécifiquement les sujets que vous traitez parce qu'ils sont très spécialisés et ça va être difficile de trouver dans d'autres associations des thématiques aussi spécialisées que vos sujets de recherche. Mais par contre, parfois, on peut avoir des résonances ou des perspectives un tout petit peu décalées qui permettent, sur des sujets plus généraux dans la recherche, d'avoir des échanges très féconds et assez moteurs. En tout cas, c'est ce qui se passe nous aussi pour la sociologie. C'est souvent en allant auprès d'autres spécialistes, d'autres domaines dans la sociologie, que tout d'un coup se lèvent des perspectives à laquelle on n'aurait pas pensé. Donc évidemment, pour TESAR, dont tu parlais, on remettra aussi le lien qui existe sur Hypothèse. Et il y a aussi des rendez-vous que vous voulez développer, des rendez-vous hebdomadaires, mensuels.
Oui, je viens d'y penser, ça pourra aussi se faire avec d'autres associations qui en connaissent peut-être davantage sur le sujet, parce que donc un des projets les plus importants de cette année pour nous, pour l'association LITESAR, c'est de prévoir de mettre en place des rendez-vous hebdomadaires ou mensuels, idéalement en présentiel, mais on envisage aussi de les rendre largement accessibles par visioconférence, pour échanger, donc, comme je disais, sur le sujet complexe des vacations et des contrats d'ATER à l'UGA. Donc on imagine pour l'instant, c'est vraiment qu'un projet, mais qu'on espère vraiment se voir concrétisé. Donc nous imaginons pour le moment des rencontres sous forme de questions-réponses entre des doctorants ayant déjà de l'expérience dans le milieu et les primo-arrivants qui sont totalement étrangers au domaine de l'enseignement. Et à l'issue de ces séances, que j'espère déjà d'une part voir se concrétiser et d'autre part assez enrichissantes et fructueuses les unes que les autres, les membres de l'association se chargeront de publier des billets sur le carnet Hypothèse dédié à cela, et on prévoit de récapituler notamment l'ensemble des points importants abordés, cela pour les personnes qui n'auraient pas pu assister à ces rendez-vous. Et en fait, il s'agira un petit peu, pour ceux et celles qui connaissent, de reprendre le cycle de séminaires intitulé « Main dans le cambouis » qui avait été proposé par d'anciens membres de l'association il y a quelques années de cela.
Ce sont là de très très beaux projets et que j'espère voir se réaliser. Nous arrivons doucement au terme de cette émission. Est-ce que tu aurais encore quelque chose à ajouter, des informations que tu voudrais partager avec nos auditeurs et auditrices ?
Oui, et je te remercie de me poser la question parce que j'allais oublier de communiquer à nos auditeurs deux informations importantes concernant les semaines à venir. Donc, tout d'abord, je vais rappeler la date de notre réunion de rentrée. Donc, ce sera le mercredi 9 octobre de 16h à 18h, plus ou moins, en salle 209 de la Massie. Et comme je le disais, il sera aussi possible d'y participer à distance. Et le lien de connexion à la visioconférence vous sera communiqué par Jeanne, notre secrétaire, dans un mail commun qu'elle vous enverra prochainement. Et ensuite, la date de notre future AG extraordinaire au cours de laquelle Donc nous élirons, je l'espère, un ou une vice-trésorier-trésorière qui se tiendra la semaine suivante la réunion de rentrée, c'est-à-dire le mercredi 16 octobre, donc également de 16h à 18h, en salle 209 de la Massie également. Et comme pour la réunion de rentrée, il sera également possible d'y assister à distance.
Nous remettrons ces informations aussi avec tous les liens qui ont pu être évoqués dans cette émission et qui forment toute une galaxie de liens à consulter encore après. Cécile Julion, merci beaucoup de nous avoir partagé toutes ces expériences. Alors, du côté de ton parcours doctoral, avec toutes les rencontres et tous les doutes parfois qui ont peut-être façonné ces rencontres, puisque c'est aussi à partir de ces doutes qu'on va chercher des réseaux et on s'enrichit d'autres expériences. Et aussi de nous avoir fait ce rappel très complet de ton rôle de présidente de l'association des Thésards et de toutes ces missions qui viennent peut-être rassurer ou intégrer les doctorants, les doctorantes, les nouveaux, les plus anciens dans tout ce parcours et lever peut-être quelques doutes ou quelques moments un petit peu de perdition, de légère perdition. Donc merci beaucoup pour être venue ce matin.
Merci à toi, Viviane, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer donc à la fois sur mon parcours doctoral et faire connaître peut-être un peu plus et susciter des vocations par rapport à l'association que je préside, l'ITESAR.
Je rappelle que nous mettrons tous les liens sur le site de Radio Campus ainsi que sur le site de l'ITR, notre UMR. On se donne rendez-vous pour la prochaine émission dans 2 mois. Merci encore et je te souhaite plein de belles choses à Oxford et plein de belles réussites encore.
Merci.